France Musique. Bonjour à toutes et tous, c'est France Musique et en ce jeudi 30 avril, retrouvez vos rendez-vous dans le premier de cette journée, Musique Matin. Jean-Baptiste Urbain est avec vous jusqu'à 9h.
Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est une artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche. La pianiste Vanessa Wagner appelle ses collègues musiciens à inventer le monde d'après, d'après la crise sanitaire. Moins de concerts au bout du monde, plus de projets artistiques locaux. L'appel de Vanessa Wagner, ce sera 8h50, elle sera notre invitée. Il y en a des milliers, des spectacles en ligne depuis un mois et demi, mais si cette gratuité mettait en danger le secteur culturel? Ce sont les Nations Unies qui posent la question, et c'est l'une des infos développées par Sophie Anastasio à 9h20 dans Classique Info. Depuis 6 semaines, on les entend à nouveau dans les villes, les oiseaux ne se cachent plus pour chanter, comment les reconnaître? Suzanne Gervais a déniché pour nous un guide pratique, elle sera avec nous à 8h30. Et puis que diriez-vous d'un blues qui nous fait remonter presque un siècle en arrière? C'est le choix de Priscille Lafitte, notre voix France Musique du jour. Rendez-vous dans un quart d'heure.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, merci de nous être fidèles. Voici Handel.
Thank you.
Handel avec cette ouverture de son opéra Agrippine, c'était le Collegium 1704 dirigé par Václav Lux et c'est toujours à la tête de son ensemble baroque pragois que vous pouvez retrouver le chef tchèque ce soir à 20h, c'est sur internet, sur le site du théâtre de Caen. Dans un autre ouvrage lyrique de Handel, Rinaldo, composé en seulement 2 semaines, c'est cet opéra d'ailleurs qui a vraiment fait découvrir le compositeur au public anglais quand il est arrivé à Londres, il y restera ensuite toute sa vie. Attention, ce Rinaldo sur le site du théâtre de Caen, c'est ce soir et pour seulement 24 heures. Pour le quatuor Modigliani, il faisait partie de ces rencontres que l'on n'oublie pas. Gauthier Capuçon, de son côté, salue un éminent collègue et un ami très cher. Lynn Harel vient de s'éteindre, il avait 76 ans. Encore tout récemment, pendant le confinement, le violoncelliste américain partageait sur les réseaux sociaux des vidéos musicales accompagnées de ces mots. La musique a le pouvoir d'étendre son bras, écrivait-il, autour de notre âme et de nous serrer très fort. Lynn Harel, c'était d'abord un musicien d'orchestre dans l'orchestre de Cleveland. Il avait joué sous la direction de George Zell. Il était d'ailleurs devenu violoncelle solo de Cleveland. Grand professeur aussi et partenaire en trio d'Itzhak Perlman au violon et Vladimir Ashkenazy au piano. Lynn Harel, il joue ici la musique de Victor Herbert, ce compositeur irlandais qui va partir à New York, il deviendra ami de Dvorak, où il compose d'ailleurs de nombreuses opérettes. Ici, c'est un arrangement de sa pièce « Yester Thoughts ». Yester Thoughts, pièce de Victor Herbert avec l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigée par Nevin Mariner et le violoncelliste Lynn Harrell. Il vient de mourir, il avait 76 ans. Sophia Anastasio y revient dans une demi-heure. Lui, il en a 25 ans et il ne finit pas de nous étonner. Jan Liszicki, c'est un jeune pianiste canadien d'origine polonaise. Il en est déjà à son 8e disque à 25 ans, dernier en date, l'intégrale carrément des concertos de Beethoven chez Deutsche Grammophon, où il dirige de son piano l'Academy of St. Martin in the Fields, justement, qu'on écoutait à l'instant, avec un son de piano assez jubilatoire. Il y a quelques mois, Jan Liszicki était à la Maison de la Radio en concert avec l'Orchestre National de France dirigé par Thomas Engelbrock. C'est ce concert que vous propose ce soir sur France Musique Benjamin François. Soyez en place à 20h. Il jouera Jan Liszicki, Mendelssohn, le second concerto. Un compositeur qu'il connaît bien, il l'a déjà pas mal enregistré ici. Il joue son irrésistible Rondo Capriccioso, composé par Mendelssohn à 16 ans. On retrouve déjà tout ce qui fait le charme irrésistible de sa musique. Thank you. Mendelssohn, le presto du rondo capriccioso en mi majeur, Jan Lysicki au piano. C'est le deuxième concerto de Mendelssohn qu'il joue ce soir dans le concert de 20h sur France Musique. Et puis bien juste après, la chanteuse Véronique Jean, cette semaine à 22h30 et tant d'autres également, c'est régulièrement au micro de Priscille Lafitte que les musiciens se confient dans les grands entretiens. Priscille Lafitte, c'est la voix de France Musique ce matin. Elle a choisi pour nous une musique qui apaise les bleus de l'âme.
Musique matin à la maison.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes à l'écoute de France Musique ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que la cohabitation sonore, la cohabitation musicale avec votre entourage, avec votre famille, avec vos voisins, se passe au mieux. Et j'ai envie de vous partager une anecdote ce matin racontée par la blueswoman Ida Goodson. Quand elle était jeune adolescente, au début des années 1920, dès que ses parents avaient le dos tourné, partaient de la maison pour une raison X ou Y, elle jouait du blues au piano avec ses sœurs et avec les gamins du quartier. Un enfant faisait le guet, sifflait le retour des parents, et quand ceux-ci franchissaient la porte, Ida Goodson s'arrangeait pour moduler son blues en chant d'église, sans lever les doigts du piano, sans rater une mesure, ni vue ni connue. Les parents, qui étaient très pieux et ne supportaient pas le blues, considéré comme une musique du diable, ne se doutaient de rien, a priori, c'est du moins ce que croyait Ida Goodson. Et ils entonnaient, tout heureux, un chant d'église ou un spiritual entouré de leurs 7 filles. Alors, 100 ans plus tard, en 2020, je parie que la musique reste un sujet de tension dans certaines familles, mais j'espère que les affinités musicales finissent par se mêler, s'entremêler avec bonheur, et que c'est le cas chez vous, sous votre toit. Et je vous propose d'écouter ce matin un blues entonné par Bessie Smith. C'est un appel à prendre la route, à jouir d'un corps libre. C'est le désir de bouffer la vie. Voilà l'esprit de ce Young Woman's Blues, enregistré en 1926 par donc l'impératrice du blues Bessie Smith, aux côtés des meilleurs musiciens de hot jazz new-yorkais de l'époque, le cornettiste Joe Martin, le clarinettiste Buster Bailey et le pianiste Fletcher Henderson. Alors soyons patients, restons chez nous autant que possible et écoutons du blues, c'est déjà un voyage en soi. Thank you.
Young Woman's Blues, Bessie Smith en 1926, le choix ce matin de Priscille Lafitte. On la retrouve toute la semaine dans les grands entretiens avec la soprano Véronique Gens qui s'est confiée à elle. C'est à 22h30. Véronique Gens, dont on écoutera d'ailleurs un extrait du nouveau disque dans une grosse vingtaine de minutes. Et puis vous, quelles sont les musiques qui vous apaisent, qui vous font du bien en ce moment? Gabriel Olivera Guyon attend vos messages. Rendez-vous sur la page de France Musique est à vous sur francemusique.fr. France Musique est à vous, c'est tous les samedis de 9h à 11h. C'est chez lui, en Pologne, que le contre-ténor Jakub Józef Orliński est confiné. Chez lui en Pologne, mais ça ne l'empêche pas de chanter avec des amis qui eux sont en France. C'est la magie de la vidéo, du montage. En l'occurrence, la mezzo Eva Zajcik et les musiciens du consort, chacun chez soi, ils interprètent ensemble. Pour France Musique, un air de Handel, c'est dans notre série Jamais Seul, à retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Jakub Józef Orliński, son nouvel album sorti l'hiver dernier, s'intitule Facce d'Amore, les visages de l'amour. Il y déploie son timbre angélique comme sur ce Odio Vendetta Amore de Francesco Bartolomeo Conti. Non so, 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 non so La voix de Jakub Józef Orliński dans cette air de Francesco Bartolomeo Conti, Audio Vendetta Amore, l'ensemble Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emelianichev. Des films à foison, cette période inédite dans nos vies fait retrouver à beaucoup d'entre nous le chemin du petit écran, notamment pour revoir des classiques très nombreux, réconfortants, souvent moins chers aussi pour les chaînes de télé. Ce soir, par exemple, TF1 diffuse Les Visiteurs. Et puis, il y a les plateformes, Netflix, qui, pour attirer plus de public que les accros aux séries, vient d'acquérir les droits des films de Truffaut. On en parlait il y a quelques jours, en attendant bientôt Demi, Chaplin ou encore David Lynch. Depuis 3 semaines, Disney+, de son côté, est le meilleur ami, nouvel ami des parents, avec tous les classiques de l'oncle Walt, et notamment un chef-d'œuvre de 1940, Fantasia, 8 séquences sur 8 thèmes musicaux, de Casse-Noisette au Sacre du Printemps, de la symphonie pastorale à Mickey en apprenti sorcier. Sur francemusique.fr, ne ratez pas un article tout récent qui raconte la rencontre entre Walt Disney et le chef Léopold Stokowski, qui dirige toute la bande originale de Fantasia, comme ici la célèbre Danse des heures, tirée de l'opéra La Gioconda de Ponchielli. Voilà, et ça continue pas des heures, mais c'est la danse des heures de la Gioconda de Ponchielli, l'orchestre de Philadelphie dirigé par Léopold Stokowski, un extrait de la bande originale du film Fantasia. Merci d'écouter France Musique, c'est Musique Matin à la maison. Dans 20 minutes, notre invité appelle les artistes à penser eux aussi le monde d'après, d'après la crise. La pianiste Vanessa Wagner sera notre invitée. C'est à la mélodie française sous toutes ses formes que la soprano Véronique Jean consacre son nouveau disque. Nuit, c'est son titre. Extrait à 9h moins le quart. 8h40, toute l'actualité musicale, c'est avec Sophie Anastasio. Mais sans plus tarder, nous rejoignons chez elle, Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne, et ce matin vous nous parlez du chant des oiseaux.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Oui, je vous invite à être attentif au chant des oiseaux, car s'il est bien une chose qui égaye, voire qui console les citadins confinés dans leur appartement, c'est que depuis un mois, la nature chatouille quotidiennement leurs oreilles. Oreilles qui sont en temps normal plus habituées au brouhaha, au klaxon, au vrombissement des voitures et des autobus. Et parmi cette faune qui s'épanouit dans les cités moins polluées, les oiseaux ont la part belle. Mon initiative du jour, je l'ai découverte grâce à la mezzo-soprano Fiona McGowan, qui a partagé sur Facebook un petit guide PDF gratuit, précis et accessible pour reconnaître tous les oiseaux que l'on peut entendre et voir depuis sa fenêtre en ville. Ce guide de 68 pages, il a été réalisé par le co-confiné de la musicienne. Il s'appelle Antonin Yuji Maeno. Il est architecte et versé dans l'ornithologie urbaine. Je précise que Fiona McGowan a d'ailleurs participé à la rédaction. Alors parmi les 55 oiseaux qui sont décrits, il y a les classiques, le moineau, le merle noir, différentes espèces de pigeons, la mésange bleue, la pie bavarde, la corneille, mais aussi des raretés comme la perruche à collier, le faucon pèlerin ou la tourterelle turque. Les fiches pratiques sont très bien réalisées avec les infos essentielles, des illustrations, des cartes. C'est un guide que tout le monde peut télécharger. Il est à mettre entre toutes les mains, les débutants curieux, les confirmés passionnés, les petits et les grands. Et puis du texte au son, il n'y a qu'un pas, puisque en bonus dans ce guide, vous avez le lien vers un site de référence pour reconnaître des dizaines de chants d'oiseaux. C'est une invitation à tendre l'oreille, une forme de méditation aussi, une ouverture nature et une saine incitation au respect et à la préservation de la nature dans nos villes pendant et surtout, espérons, après le confinement.
Et oui, tendons l'oreille, Suzanne Gervais, musique connectée à retrouver aussi sur le site sur francemusique.fr. Tenez, tendez l'oreille avec ce pas de quatre du Lac des Cygnes, transcrit pour violon et piano avec Geneviève Laurenceau et Chani Di Luca, mais aussi deux chanteurs d'oiseaux. En 1 minute 30, ils imitent quatre oiseaux. Est-ce que vous allez en reconnaître ? Tchaïkovski, un arrangement du Lac des Cygnes, le pas de quatre de l'acte 2, Geneviève Laurenceau au violon, Chani Di Luca au piano et les chanteurs d'oiseaux Jean Boucau et Johnny Ras, ils imitaient ici le chant de la mésange, du coucou gris, du rossignol prunier et de la tourterelle des bois. Bravo déjà si vous en avez reconnu un ou deux, le coucou peut-être qui est le plus facile. Allez, tout autre chose dans l'histoire du quatuor à cordes. Les Anglais du quatuor Amadeus ont marqué le XXe siècle, à 40 ans d'activité de 1947 à 1987. Des enregistrements qui demeurent des références, plus de 2 millions de disques vendus d'ailleurs. Martin Lovett, le violoncelliste du quatuor Amadeus, vient de s'éteindre. Il avait 93 ans, il était le survivant de la formation. Alors les voici, les Amadeus, on est en 1965 et on le sent, leur sourire aux lèvres, quand ils jouent cette musique de Joseph Haydn. Thank you. Le final Vivace du Quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 71 de Joseph Haydn par le Quatuor Amadeus avec le violoncelliste Martin Loved qui vient de s'éteindre. On y revient d'ailleurs tout de suite dans Classique Info. Avec vous, Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Les intermittents du spectacle, artistes et techniciens se mobilisent pour réclamer des solutions face à la crise dans laquelle est plongé le secteur culturel. Deux pétitions ont été lancées par les collectifs Année Noire et Culture en Danger. Elles réclament une année blanche, c'est-à-dire la prolongation de 12 mois à compter de la date de réouverture des lieux de spectacle, des droits à l'assurance chômage pour les intermittents. Publiées sur le site change.org, elles avaient recueilli à elles deux plus de 213 000 signatures le 29 avril. Une trop grande gratuité des produits culturels n'est pas sans danger pour ce secteur déjà fragile, alerte l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, institution de l'ONU. Dans un entretien à l'AFP, son directeur s'inquiète des nombreuses exceptions à la propriété intellectuelle demandées depuis le début de la pandémie sans regard pour le droit d'auteur. Un avertissement qui intervient alors qu'un nouveau traité visant à protéger les droits des travailleurs de l'audiovisuel vient d'entrer en vigueur. Le groupe Société Générale mobilise 2 millions d'euros pour soutenir la musique classique. Un plan qui se décline en trois champs d'action, soutien aux ensembles et projets musicaux partenaires du groupe, à la reprise d'activités d'ensembles indépendants et une bourse d'urgence pour les élèves des conservatoires supérieurs de Paris et de Lyon. Trois grands artistes nous ont quittés cette semaine. La soprano Jeannette Pilou est décédée à l'âge de 83 ans. Née en Égypte de parents grecs, grande interprète du répertoire français, elle a notamment beaucoup côtoyé les planches du Metropolitan Opera de New York. Le monde du violoncelle pleure quant à lui la disparition de l'un de ses musiciens les plus admirés, Lynn Harrell, décédée lundi à l'âge de 76 ans. Violoncelle solo de l'orchestre de Cleveland, il avait notamment remporté deux Grammy Awards pour ses enregistrements des trios de Beethoven avec le violoniste Itzhak Perlman et le pianiste Vladimir Ashkenazi. Et un autre grand violoncelliste est décédé hier, Martin Loved, dernier membre encore en vie du célèbre quatuor Amadeus. Le musicien anglais avait 93 ans. Et on termine avec la Scala de Milan qui, selon la presse italienne, devrait reprendre son activité au mois de septembre. Une reprise en deux temps avec un premier concert, le Requiem de Verdi, dirigé par Riccardo Chailly. Dédié aux victimes du Covid-19, il pourrait se tenir dans le Duomo de Milan avant un retour au sein de la Scala avec la 9e de Beethoven. Ce projet, présenté lundi en conseil d'administration par le surintendant Dominique Meyer, doit encore être officialisé.
Classique Info, Sophia Anastasio, à retrouver aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain, Sophia. Vous évoquiez à l'instant Jeannette Pilou, grande interprète du répertoire italien, mais elle excellait aussi dans sa langue. Le français, je vous propose d'écouter quelques secondes sa voix. Quelques instants de Jeannette Pilou dans cet extrait de Manon de Jules Massenet avec l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne dirigé par Serge Baudot, un enregistrement de 1971. Samedi, après-demain, à 20h sur France Musique, Judith Chêne rendra hommage à Jeannette Pilou avec également au programme la diffusion inédite d'une production de La Norma de Bellini enregistrée à Hambourg quelques jours seulement avant le début du confinement. Chacun de ces nouveaux disques est attendu et nous ravis. C'est le cas encore une fois. Ici, c'est dans un programme intimiste que nous revient Véronique Jans autour de la mélodie française. Son titre « Nuit », mélodie française, mais pas accompagnée d'un seul piano comme c'est le cas traditionnellement. Ici, elle peut compter sur l'étoffe des cordes. Il s'agit de différentes transcriptions dans une diction toujours parfaite, la soprano. Éblouie par les différentes couleurs qui jaillissent de sa voix. Alors, il y a les grandes mélodies du répertoire, Après un rêve de Gabriel Fauré, par exemple, Des raretés de Reynaldo Hahn à Fernand de la Tombelle. Et puis, une surprise, c'est cette surprise du disque que je vous propose ce matin.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie.
La vie en rose, musique signée Luigi, les paroles sont d'Edith Piaf et c'était Véronique Jeans avec l'ensemble Il Giardini. C'est un nouveau disque sorti chez Alpha, un choix France Musique, qui est à retrouver d'ores et déjà sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Comme tous les jours, il est l'heure de rejoindre notre invité, ou ça, chez lui, chez elle plutôt, bien sûr.
Musique matin à la maison, France Musique.
Et notre invitée ce matin, c'est Vanessa Wagner. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Pianiste, artiste engagée et directrice de festival. Le festival de Chambord, il était prévu du 3 au 18 juillet, alors il est annulé.
Ouais.
Ce que vous avez choisi de faire, c'est de fêter les 10 ans finalement l'année prochaine.
Ce qu'on a choisi de faire, c'est de se dire, bon ben voilà, l'année elle est presque vide et morte. Et on a tenu quand même à... Parce qu'on trouvait ça quand même beaucoup plus positif de se dire, bon ben, on fête les 10 ans quand ça sera la 11e année, et puis on réinvite tous les artistes qu'on avait souhaité inviter pour cette édition. On tient notre engagement vis-à-vis d'eux pour l'année prochaine. Parce que c'est évidemment très angoissant pour les festivals, les salles, toutes les associations et la vie culturelle, et c'est... Bien entendu, aussi très angoissant pour les artistes, dont certains n'ont plus aucune source de revenus et plus la possibilité de s'exprimer, de faire leur métier. Voilà, c'est quand même une situation tout à fait inédite et assez anxiogène.
Rendez-vous l'année prochaine pour le Festival de Chambord. Donc, Vanessa Wagner, projetons-nous vers l'avenir. Vous êtes une artiste qui s'est engagée politiquement auprès du parti animaliste, qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux. Pour vous, vous l'avez écrit, il va falloir inventer le monde d'après, y compris pour les artistes.
Oui.
Comment ?
J'ai pas de recette miracle, mais je pense effectivement que de la même façon qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme si rien ne s'était passé, comme si cette crise, voilà, une fois qu'elle serait plus ou moins derrière nous, bon, on allait reprendre nos bonnes vieilles habitudes d'hyperconsommation, de voyager partout dans le monde pour des prétextes pas toujours les plus importants, et puis de, voilà, de pas faire attention à la terre qui nous accueille, et puis évidemment économiquement. Pour le monde de la culture, il y aura des vrais, vrais, vrais enjeux. Donc, j'espère, je pense qu'il faudra prendre en compte tout cet écroulement qui, enfin, on mesure à quel point nos mondes sont fragiles et fragilisés, là, très fortement. Et si on reprend comme en 40, si je puis dire, je pense qu'on va aller dans le mur très vite. Donc, il y aura des choses qui avaient déjà commencé avec les enjeux climatiques très, très importants qui nous arrivent en pleine figure. Il y a des orchestres, il y a des solistes qui ont déjà pris des positions pour notamment ces voyages. Parfois, quand on voit certains artistes dont j'ai fait partie, hein, je lance la pierre à personne, mais parfois on va pour un seul concert au bout du monde, puis on revient, puis on repart. Enfin, c'est, voilà, il va falloir que tout ça prenne un peu d'humilité et de plus de simplicité, de pouvoir inventer des modes de vie et de faire ce métier un peu autrement, un peu moins vite, un peu plus simplement. Voilà. Il y a beaucoup d'enjeux dont on doit prendre considération.
Et en même temps, sur Twitter, vous avez écrit « J'ose croire que ce confinement rendra justice à la place de la musique, mais aussi de la lecture, du cinéma comme nourriture vitale ». C'est une conviction ou un vœu pieux ?
Bon, c'est les deux. C'est sûr que les artistes sont extrêmement fragilisés en ce moment, enfin la plupart. Et puis on se rend compte d'ailleurs à quel point l'inégalité sociale, mais aussi, enfin, ce confinement, il met en lumière énormément d'inégalités. On voit dans certains quartiers qu'il y en a même qui n'arrivent plus à se nourrir. Et je pense que quand on a la chance de pouvoir accéder à la musique, à la lecture, au cinéma, ça sauve. Donc on fragilise énormément le milieu culturel, mais on se rend compte à quel point l'art nous permet de vivre.
Vous pensez que les artistes et les musiciens, je pense notamment aux jeunes qui commencent leur carrière, ne sont pas assez aidés aujourd'hui par l'État, par le ministère de la Culture, ou bien c'est encore un peu trop tôt peut-être pour en parler ?
C'est un peu tôt, et puis c'est compliqué parce qu'en même temps, en France, on a ce régime de l'intermittence qui est quand même un très bel exemple de soutien à la profession culturelle. Alors là, c'est vrai que toutes les annonces arrivent, ne sont pas comprises, ne sont pas mises en œuvre. On est vraiment dans l'inconnu de savoir tous ces cachets qu'on ne peut pas faire. D'abord, jusqu'à quand on va être inactif, dans quelle mesure on va être aidé. Encore une fois, il y a certains artistes qui ont des modes de vie très aisés, qui vont pouvoir amortir le choc de 3-4, 2-3, je ne sais pas combien de mois sans concert. Il y en a d'autres, notamment les tout débuts de carrière, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour eux. Même si c'est toujours, encore une fois, compliqué de se plaindre en ce moment parce qu'on voit des exemples tellement plus dramatiques autour de nous. Et puis, il y a les artistes, mais il y a évidemment derrière, moi, ce que je crains le plus, c'est l'effet domino, en fait, de cette crise qui s'annonce et des salles, des associations assez modestes qui vont peut-être disparaître parce que les grosses salles, les grosses structures emblématiques, elles vont être aidées, elles seront là, ça sera dur, mais on ne va pas laisser mourir les grandes salles, les théâtres qui sont vraiment connus, reconnus. Par contre, des petits festivals d'été, des associations musicales plus modestes, des gens qui se, déjà en temps normaux, qui se battent pour faire exister 4-5 concerts dans l'année, enfin, tout ce type de carrière de tissu culturel qui fait vivre la vie musicale française et dans les départements où c'est pas aussi florissant qu'à Paris, je pense qu'il va y avoir beaucoup de casses et beaucoup de dommages à moyen et long terme. Et ça va être aussi très inquiétant pour toutes les carrières qui ne sont pas de jouer à Paris, à New York et à Tokyo, quoi. Il y a tout un mode de carrière qui est beaucoup plus simple et extrêmement important, qui risque d'être problématique dans les années à venir.
Pour finir avec un clin d'œil, vous avez aussi diffusé des vidéos musicales de votre confinement, Vanessa Wagner. Mais alors, c'est pas du tout une vidéo comme celle dont on parle régulièrement ici depuis 4 semaines. C'est un trio pour 2 poules et 1 pie dans votre jardin. C'est un clin d'œil ou c'est une petite moquerie? Ça vous agace, ces vidéos? C'est parfois très touchant.
Non, non, ça m'agace pas. Chaque artiste a ses moyens de communication en ce moment. Moi, c'est vrai que en début de confinement, je me suis un peu recentrée sur ma famille, mes enfants. J'étais un peu en sidération, j'étais un peu, voilà, j'ai été très ébranlée, très touchée, très inquiète aussi pour certains membres de ma famille. Donc, j'avais pas du tout la tête à tout ça. Après, j'étais dans mon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce jardin aux portes de Paris et que je passe énormément de temps à écouter ce silence citadin qui est revenu et qui est assez agréable. Et j'ai 2 poules dans mon jardin qui caquetaient avec 1 pie. Elles se faisaient un espèce de petit dialogue. Là, c'était charmant. Donc, j'ai posté ça parce que c'est une façon de rire. Et puis aussi, enfin, c'est vrai que les vidéos, il y en a des très touchantes. Après, je d'en avoir tout le temps, tous les jours, ça ne va pas être la seule et unique réponse qu'on va devoir donner à tout ce qui se passe. Alors, ça fait sûrement du bien à plein de monde et ce qui est formidable, c'est ben, d'écouter des concerts à la radio, de regarder les rediffusions des concerts de la Philharmonie. Enfin, voilà, on a une bibliothèque d'ailleurs de livres, de cours du Collège de France. On a plein de choses à notre qui peuvent arriver dans notre maison. Donc j'ai trouvé ce petit clin d'œil de mes poules et de cette pie qui caquette. Voilà.
Merci beaucoup Vanessa Wagner.
Merci à vous.
On vous retrouve sur arte.tv, le concert que vous avez donné juste avant le début du confinement au Théâtre du Châtelet à Paris avec Arthur H. Inland, c'est votre dernier album paru l'an dernier. Je vous propose, si ça vous va, qu'on se quitte avec un voyage en train en compagnie de Monk, la compositrice Meredith Monk. Merci.
Merci à vous.
Railroad, la musique de Meredith Monk, extrait de l'album Inland de Vanessa Wagner, qui était notre invitée ce matin. Voilà, c'est la fin de Musique Matin. À la maison, Loïc Dureau c'était à la technique, Claire Lagarde et Sophie Pichon à la réalisation, Marion Guillemet avec Taïsia Froidure, Margot Muller et Pauline Boisaubert à la coordination. Dans un instant, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier avec une passion signée Karl Löwe. Je vous souhaite une très bonne journée sur France Musique et à demain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.